Radio Spirale. Ici Eric Les Tourneaux à l'antenne de Radio Spirale. Lorsque Nicolas Lévesque m'a proposé de créer une émission dans le cadre de sa programmation, je crois qu'il m'a approché parce que j'avais une réputation de créateur radiophonique. Je pratique ce qu'on pourrait appeler l'art radiophonique depuis à peu près 20 ans. Et j'ai commencé assez jeune. J'ai monté dans les années 80 un réseau d'échange d'émissions de radio, d'œuvres radiophoniques, entre différentes radios libres européennes et radios communautaires à travers le monde, et d'autres radios publiques aussi. On avait monté un réseau qui s'appelait l'ACRIC, l'Association des créateurs radiophoniques indépendants du Québec. Quand je dis « on », c'est Boris Chassagne, Benoît Fauteux et moi. Nous avions donc monté ce réseau d'échanges d'émissions entre la Belgique, les Antilles, la France, le Québec et d'autres pays francophones. Petit à petit, j'ai continué à développer des expériences avec la radio, à développer une vision de la radio qui, se combinait, se fondait avec d'autres disciplines. En 1992, j'ai créé, en collaboration avec d'autres artistes, une pièce qui s'appelait « Homélie Amplitude » A1, A2, A3, A4, fonction du temps. Et dans cette pièce, un émetteur radio, FM, était mis en conjonction avec un corps humain, avec le mien. En fait, c'était l'électricité qui activait l'émetteur, qui était partagé avec le corps. Et faisant fluctuer l'électricité, faisant voyager le courant électrique entre mon corps et l'émetteur radio, ça faisait changer la fréquence de diffusion. On opérait donc des balayages de fréquence grâce à un émetteur radio FM sur toute la bande. On parasitait en fait l'ensemble de la bande, mais en se promenant de la plus basse fréquence à la plus haute fréquence. Donc, quelqu'un qui écoutait une émission pouvait nous entendre passer comme ça, fugitivement. Il y a d'autres expériences qui ont été faites avec la radio, des expériences en lien avec le concept d'archive, le concept d'enregistrement, comment la technologie de l'enregistrement sonore modifiait notre perception du son. Mais ce qui nous intéressait surtout, parce que je dis nous parce que c'était un groupe, c'était de créer des émissions en direct. C'était des émissions en direct et contextuelles, donc qui prenaient place dans un lieu précis, une aire de diffusion précise. Ça peut paraître paradoxal parce que la radio a une espèce de pouvoir d'ubiquité. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était cette aire de diffusion que j'appelais une sculpture électromagnétique. Je la voyais comme une sculpture, en fait. Lorsque vous regardez les patrons d'ondes d'émetteurs radio sur les plans des ingénieurs, vous observez que les patrons d'ondes ne sont pas complètement circulaires. La radiation, l'antenne est évidemment au milieu, il y a une aire de radiation, un territoire géographique jusqu'où l'émission peut être entendue, puis ensuite ça se dissout tranquillement. Mais cette aire-là n'est pas complètement ronde, elle a des formes dépendant du type d'antenne, dépendant de la géographie des lieux. Et donc, je les voyais comme des sculptures électromagnétiques. Et à travers, ou à l'intérieur de ces sculptures, donc, en fait, je voyais l'émission de radio comme étant une modification, une altération d'un espace précis qui était cette aire de diffusion et dans lesquelles les auditeurs se trouvaient. Ils pouvaient être fixes ou mobiles, fixes à la maison, mobiles en voiture, avec les baladeurs. Et j'avais développé ce concept de polysynesthésie. Donc la synesthésie, c'est ce phénomène... Ce phénomène où on entend, où on peut sentir, où on peut percevoir par un de nos sens des informations qui donnent naissance à des impressions reliées à d'autres sens, liées à d'autres sens en fait. Ce qui m'intéressait dans cette idée, c'est que, un peu à la manière de John Cage, un compositeur américain qui travaillait beaucoup avec le hasard, c'était de voir comment, par hasard, un environnement précis, où était écoutée une émission de radio, d'art radiophonique, pouvait interagir au hasard avec le contenu de l'émission au moment de cette diffusion. Et donc, j'invitais les auditeurs à téléphoner très souvent pour nous faire part de leurs impressions, de leurs expériences. Donc, c'était très différent des lignes ouvertes où il y avait, les lignes ouvertes ont en fait un but assez précis et sont assez dirigées. C'était des lignes ouvertes non dirigées. Et avec Benoît Fauteux aussi, j'ai fait les expériences de lignes ouvertes non animées, c'est-à-dire les lignes ouvertes qui sont tout simplement un espace de liberté sur les ondes pour les auditeurs, avec seulement comme contenant le temps. Donc, les auditeurs pouvaient téléphoner, dire ce qu'ils voulaient dans une certaine période de temps, puis ensuite, c'était le tour à l'auditeur suivant. Et on pouvait aussi accompagner quelquefois l'ensemble par des sons. C'était donc cette manière de voir la radio. Évidemment, j'ai travaillé par après dans d'autres contextes, Radio-Canada, à l'émission de Navier Night avec Hélène Prévost. J'ai reçu des commandes de Mario Gauthier, l'espace du son. Et lorsque Nicolas Lévesque m'a demandé de parler du mois de septembre, j'ai pensé à la rentrée culturelle, mais la rentrée scolaire aussi, parce que c'est la première rentrée, hein, c'est la première rentrée dans notre société où tout est réglé en fonction de certains moments précis de l'année. Et septembre, c'est un des moments clés. C'est le moment aussi du début de la programmation radio. Alors comme, évidemment, j'avais une position un peu critique par rapport aux médias ou à la façon dont les médias de masse traitaient l'information dans ma démarche radio, ben, septembre, c'était aussi l'inauguration de toutes les grandes programmations, des grandes chaînes. De grands monopoles maintenant, parce qu'il y a 25 ou 30 ans, en Amérique du Nord, il y avait une multitude de chaînes. C'était pas si nombreuses, mais il y en avait une trentaine, et puis ça a diminué à 15. Et puis on est maintenant aux États-Unis, il y a 4 conglomérats, et à part les radios communautaires, il n'y a plus de médias commerciaux indépendants, en fait. Tout est centralisé. C'est un peu la même chose ici, où on a vu des radios publiques, ou la radio publique, se diriger vers une programmation visant à favoriser soit l'inventaire publicitaire à la télévision, donc l'accroissement de revenus en termes de publicité, ou l'accroissement de capital symbolique dans le cas de la radio ici au Canada, c'est-à-dire une cote d'écoute. Alors, quelle que soit la qualité de l'écoute, parce que on sait très bien qu'une cote d'écoute, c'est quantitatif, c'est pas qualitatif. En d'autres termes, si on augmente la cote d'écoute de plusieurs milliers d'auditeurs, ça ne veut pas nécessairement dire que ces auditeurs-là écoutent attentivement. Alors, en fait, cette expérience globale de la radio se poursuit, mais maintenant, les médias vont changer, peut-être, et fort probablement, vous m'écoutez par podcast ou sur iPod. Et c'est donc une expérience complètement différente. La radio pirate aujourd'hui, ben, c'est remplacé par le cyber hacking, des techniques, des technologies de ce type-là. Voici donc septembre, que j'appelle avec un peu d'humour un mois de trahison, avec des extraits de différentes pièces radio, en fait de work in progress, je dirais, de nouvelles pièces, de pièces à venir.
Le petit peu, le pèlerin, la galoche, ma joie, Café Jade Été, Benz, Warshaw. Lumière, noir comme le soleil, il danse, chante, célèbre. Café Lâtre, Café Picasso, Café La Galoche, Café Hibou, chez Robutel, Renaissance.
Septembre. Tableau noir. Septembre noir. Climat. Noir. Climat. Pure lumière. Paul passe. Des prospectus. Le mois. Le porte d'entrée factice. Fausse porte. Ouverture d'entrée sèche, alors qu'on la voyait luisante comme une anguille, sa langue. On pense être dans le portique, mais on est dehors, et même une fois dans le portique.
Lumière.
Celle qui a ouvert la porte fuit déjà. On la voit fuir dans les dédales sans fin. Trajectoire hyperborée.
Septembre, mois de trahison.
Plus tard devenir pilote.
Immergé dans le bain de délicieux spas de bruit blanc et d'art et d'enfer et d'harmonique.
Bébé de septembre.
Peux-tu amplifier le signal?
Bébé d'octobre. Dans les autres dimensions différentes. Ce qu'il est déjà et depuis, j'éprouve beaucoup de difficultés à faire confiance à l'apparence des choses. Les eaux du présent.
Semblable à
composer
les choses quelques minutes seulement avant la course au panier d'épicerie, avant la mise en onde, dévorer les ondes, l'amplitude de l'onde, la fréquence touche à un instant précis la surface de réception.
Composer non pas de ma liqueur séminale, mais de celle de centaines d'autres. Comment croire que les choses sont telles qu'on les nomme lorsqu'on doute même que chaque os analysé
tôt s'organise comme une petite le père sonne, le départ
donnera une fausse indication dès le départ dans la nouvelle lumière.
Il ouvre toutes grandes les salles de visionnement, réception somptueuse et réalise des flots de formants. Seulement ponctué ça et là de quelques messages, la réceptionniste a réajusté son tailleur. Nuit noire, l'usine de la Marconi n'a pas de fenêtre et tout passe à travers ses murs. Le nez bouché, matin mauvais, matin morose, matin gris. Septembre en ombre laisse présager octobre. Trahison intime, le son se déplace en volute. En volute. Ah, 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 ah. Ah.
Je suis un chat.
La présence aux rives de toute vie aiguise le kirpan sur la couronne d'une queue de nuit.
À bas bord, c'est tout univers. Sans foi, sans chaud, sans chaud. Thank you.
route est délicieuse avec toi. Prends-moi.
Nous irons au restaurant.
Amène-moi loin. Amène-moi. Prends-moi. Prends-moi. Car la route est délicieuse. Avec toi. Avec toi.
Prends-moi.